Manuela Dreger, 11 rêves de suie, un roman qui va paraître aux éditions de l'Olivier. Lutz Lassmann, Les aigles puent, un roman qui paraîtra aux éditions Verdier. Et de Volodine, un roman également qui paraîtra aux éditions du Seuil, qui porte comme titre Écrivain au pluriel.
En deux mots.
Alors,
on va voir ça.
Et donc, je vais lire quelques extraits de ces trois livres qui paraissent simultanément, qui appartiennent à cette même communauté d'écrivains, pour laquelle j'assume le rôle de porte-parole, ce qui est facile pour quand on est porte-parole d'Antoine Volodine, mais qui est plus compliqué lorsque on doit être porte-parole de Lutz Lassmann, et encore plus compliqué lorsque on doit parler au nom de Manuela Dreger. Il ne s'agit pas de se déguiser, j'assume simplement ce rôle de représentant de ces trois auteurs. Je vais commencer par lire deux petits extraits de Manuela Dreger, 11 rêves de suie, qui parle de politique et d'enfance et qui ne sont pas totalement représentatifs de ce livre qui paraîtra en septembre, mais qui porte sa langue.
C'est trop chaud.
Quand j'évoque la Bolshoi Pride, et je suppose que tes impressions et les miennes se recoupent, j'ai d'abord en mémoire les images imprécises de ma très petite enfance, des souvenirs de foule traversée au milieu des jambes et des genoux. J'ai en mémoire la rumeur énorme, ininterrompue, des manifestants en marche. Quand je tombe, on me rattrape. Quand je suis fatigué, on me hisse sur les épaules de quelqu'un, un oncle, mon père, je ne sais. Du haut de mon perchoir, pas vraiment en équilibre, obligé pour ne pas glisser de me pencher sur des cheveux à l'odeur de sueur et de bois humide, je domine le déferlement des masses. Mon oncle ou mon père ou un adulte appartenant à cette vaste catégorie me tient par une cheville, l'autre main étant occupée à envoyer des vociférations poings fermés en direction du ciel et des capitalistes. Je ne comprends pas un mot de ce que hurle la multitude. Je me cramponne au front de mon porteur. J'ai un peu peur de cette marée tonitruante qui m'encercle. J'ai peur de filer soudain vers la terre et de me faire piétiner par les légions prolétariennes. La peur m'excite. À mon tour, je pousse des cris suraigus qui s'adressent à moi-même plus qu'à l'ennemi. Je suis aux anges. Je retrouve ensuite des images plus récentes, liées à un âge où déjà je m'étais approprié le langage et où, sans doute, je devais posséder mes premières notions d'idéologie égalitariste. Je me rappelle l'émotion qui m'électrisait la veille au soir, quand je déballais le déguisement que les adultes m'offraient pour faire le lendemain bonne figure. La plupart du temps, on négligeait ma nature de petite fille et on me déguisait en Dzerzhinsky. Je n'étais pas peu fier de coiffer une casquette de feutre militaire et de me plaquer sur le visage une fausse barbiche et des moustaches. Mon petit frère, lui, recevait régulièrement une panoplie de Tchapaïev. Il ne se plaignait pas de devoir interpréter pour le temps de la fête un personnage aussi célèbre, aussi héroïquement rouge, mais il lui arrivait d'émettre des doutes sur la toque qu'on lui enfonçait sur la tête et qui, bricolé par la mémé Holgold et d'autres grands-mères avec des tombées de vieilles couvertures, évoquait médiocrement l'original qu'avait porté le commandant de la 25e division en agneau noir frisé, magnifique. Mon petit frère jugeait sa toque moins élégante que ma casquette, et sa déception était flagrante quand nous comparions sa simple moustache noire à ma pilosité dzerjinskienne, moins fournie, mais double. En bons camarades, nous échangions donc fréquemment nos attributs de chefs implacables, et très vite, nos postiches se dégradaient. Nous devenions des hybrides, plus carnavalesques que révolutionnaires, ce que les adultes ne songeaient pas à nous reprocher. Nous étions petits, ils se baissaient pour nous câliner et réparer les élastiques qui mettaient nos masques en place. Parfois, ils prononçaient quelques évidences joyeuses sur les débuts de la Tchéka ou sur les mitrailleuses de l'Oural, mais la plupart du temps, ils se contentaient de nous encourager affectueusement à grandir et à continuer. C'était un peu vague comme conseil, mais je crois que nous comprenions déjà ce qu'ils avaient en tête. La fidélité à la cause des vaincus, la poursuite du combat, quelle que puisse être l'irréversibilité de la défaite, l'enthousiasme à la pensée des occasions perdues. Nous allions grandir à notre tour et porter haut jusqu'à notre mort les drapeaux de tous ces désastres. L'agitation festive s'emparait d'à peu près tous les gens que nous connaissions, enfants et adultes, maniaques et dépressifs, bavards à hableurs, aussi bien que taciturnes à physionomie insoumise. La Bolshopride approchait, la grande manifestation populaire, son déferlement rugissant. Pendant une semaine ou deux, l'atmosphère changeait à l'intérieur du cadre familial et dans le ghetto. L'accablement était mis entre parenthèses. La sensation de n'avoir aucun avenir s'estompait. Nous avions tous soudain la certitude d'appartenir à une collectivité de braves, de prolétaires vaillants, lucides, optimistes, sur le point d'être entraînés dans quelque chose de lumineux qui allait rompre avec nos habitudes millénaires de naufrage, d'asservissement et de déroute. D'une maison à l'autre, on entendait les gens s'interpeller de façon différente, la voix comme ragaillardie par l'imminence d'une nouvelle fraternité insurrectionnelle. Des chants retentissaient à tout moment, issus par exemple de postes à galènes qui avaient échappé aux perquisitions, ou diffusés par des gramophones à rouleaux qui avaient été rafistolés et graissés durant l'été et qui, en dépit des efforts de nos techniciens rouges, réussissaient rarement à se maintenir en état plus d'une demi-journée. La musique révolutionnaire, les chœurs de Komsomol et les tangos soviétiques des années 30 du XXe siècle, si indispensables à notre culture, accompagnaient 24 heures sur 24 la période de préparation de la manifestation. Tests et répétitions avaient sur les mécaniques des conséquences fatales, et souvent, le jour de la Bolshopride proprement dite, elle diffusait des hoquets grinçants au lieu de mélodies entraînantes, ou elle restait muette. Néanmoins, il y avait suffisamment de machines survivantes, suffisamment de haut-parleurs pour donner tout son caractère triomphal à l'ambiance sonore de l'événement. La mémé Holgold rajeunissait nettement à cette époque de l'année. Les adultes le soulignaient dans leurs conversations et leurs plaisanteries, et elles-mêmes le reconnaissaient avec un brin de malice, n'hésitant pas à dire que le vent et l'odeur d'octobre avaient toujours fouetté sa circulation, régénéré ses neurones et favorisé sur sa peau la disparition des taches de vieillesse. Or, cette année, les choses ont mal tourné. La Bolshopride a été une fête de la violence et du malheur. Tu es en train de brûler. Je vais à toi. En ce moment, nous sommes avec toi. Nous allons tous vers toi. Nous échangeons nos derniers souffles. Ta mémoire coule à l'extérieur de tes yeux. Mes souvenirs sont les tiens. Mon père et ma mère traînèrent sans rien dire les corps des deux soldats de la fraction Vergevel jusqu'à la grille en fer forgé qui bordait le canal. Il n'y avait pas grande distance à parcourir, mais ils étaient tous les deux effarés par ce qui venait de se produire et l'émotion leur ôtait une partie de leur force. Je crois qu'ils n'avaient pas encore échangé la moindre parole. Ils éloignaient les dépouilles du lieu de la bagarre. Il pensait qu'il était préférable avant toute chose de ne pas les laisser en vue près de la bicyclette et de la carriole. Ils commencèrent par celui qui avait été défiguré par le tranchant d'un bout de tôle. Ils l'allongèrent le long de la grille, veillant à orienter vers le canal son visage crevé, puis sans marquer de pause, ils retournèrent chercher celui qui ressemblait à un lutteur et qui avait roué ma mère de coups de pied. Ma mère était endolorie, et elle respirait en sifflant. Mon père avait, sur le front et même sur les joues, des gouttes de sueur. Il tirait le lourd cadavre par les bras. Celui-ci n'avait pas les yeux fermés et sa tête dodelinait, lui donnant un air mal gracieux et désapprobateur. Ils le couchèrent à côté de son camarade. Ils attendirent quelques secondes que leur rythme cardiaque s'apaise et, comme rien en eux ne s'apaisait, ils reprirent leur macabre besogne. Ils assirent les deux corps, puis ils les soulevèrent et ils les firent basculer l'un après l'autre par-dessus la grille. Personne n'assistait à leurs efforts. Où que se portât leur regard, le quartier était désert. Les dépouilles tombèrent de l'autre côté et aussitôt roulèrent sur la berge de béton. La pente était raide et les morts semblaient avoir hâte de rejoindre le canal. Le lutteur toucha l'eau et il glissa dedans et s'y enfonça sans tergiverser, mais l'autre s'arrêta dans sa trajectoire et resta étalé dans une posture hideuse, les jambes immergées jusqu'au bassin, les bras levés, le tronc hors de l'eau, comme désirant embrasser le monde sec avant de disparaître. Puis on eut l'impression qu'il refuserait longtemps de couler et qu'au contraire il se comporterait comme un noyé venant de s'extirper du canal, s'accordant un peu de répit avant de reprendre des activités normales sur la terre ferme. Sa tête formait avec sa colonne vertébrale un angle inacceptable, son visage balafré avait laissé une marque sur le ciment et continuait à répandre du sang. Mon père et ma mère s'accoudèrent à la rambarde, mais ils ne s'attardèrent pas pour contempler ce spectacle. Dès que le corps du gros fut invisible sous la surface, ils firent demi-tour et ils revinrent lentement vers la bicyclette et sa remorque. À ce moment, ma mère sentit ses jambes se dérober sous elle. Elle ne pouvait plus dissimuler qu'elle était dégoûtée par ce qui s'était passé et qu'elle avait peur. Elle ne pleurait pas, mais sa respiration, soudain, n'avait plus aucune régularité. Or, plutôt que de serrer cette femme contre lui pour la rassurer et lui dire, par exemple, que tout était fini et que tout s'arrangerait, mon père la fit pivoter doucement. Il saisit dans son dos le panneau de carton que la réglementation l'obligeait à porter quand elle sortait dans la rue, et il l'arracha. « Cette femme est encore vivante, » était-il écrit. « Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose d'anormal ?» Lorsqu'il eut envoyé en direction du canal l'annonce réglementaire, ma mère retrouva son sang-froid. Elle était fière, volontaire. Elle ne tenait pas à ce que son sauveur la prît pour une poule mouillée. À son tour, elle détacha l'annonce qui était suspendue entre les épaules de mon père. « Si cet homme n'est pas encore allongé dans son propre sang, était-il écrit, c'est qu'une anomalie s'est produite. Qui que vous soyez, rétablissez les choses. » Ensuite, ils restèrent un moment face à face. Très haut dans le ciel, juste sous les nuages accablants de menaces, des mouettes volaient et, si elles criaient, on ne les entendait pas. Puis, derrière la fenêtre de l'ancien restaurant que jusque-là on avait cru abandonné, mais où, en réalité, une famille de réfugiés s'était discrètement établie, un bébé se mit à pleurer. C'est alors que mes parents ont décidé de s'unir. Voilà, c'était un texte de Manuel Dreger. Je vais maintenant lire, prendre la voix de Luz Bassmann, lire un extrait de son roman à paraître en septembre qui s'appelle « Les aigles puent ». Un homme est sur des cendres d'une ville détruite. Il parle à un rouge-gorge et à une poupée, un gollywog. Il parle en leur donnant la voix parce qu'il est ventriloque et il raconte des histoires pour faire rire ceux qui sont sous les cendres, pour faire rire les morts. « Je n'ai aucune envie de parler, » dit le rouge-gorge. « Ce n'est pas une question d'envie, » dit le gollywog. « Moi, par exemple, je n'ai jamais eu envie d'être un jouet raciste, que ça date des temps historiques ou de plus tard. L'envie n'a rien à voir avec tout ça. Si tu peux parler, il faut que tu parles. Que tu parles ou que tu te taises. » « Bon, » acquiesça le rouge-gorge. Il se tut. Ils restaient tous les trois prostrés à l'endroit où le destin les avait rejetés comme des débris noirs sur une plage après une forte marée. Gordon Coom, le gollywog et le rouge-gorge. Prostrés comme des débris noirs. La ville autour d'eux avait cessé d'être un lieu de rencontre, d'activité humaine et même de destruction et de mort. C'était simplement un décor obscur dans lequel ils pouvaient tous trois faire semblant d'un semblant d'existence et d'un semblant de connaissance langagière, un décor sans passé et sans avenir. « Continue, » dit Gordon Coom, « continuez tous les deux. » « Je n'ai rien à dire, » se plaignit le rouge-gorge. « Il faut faire semblant, » conseilla le gollywog. « C'est plus facile quand on fait semblant. »« Alors, vas-y, toi, » dit le rouge-gorge. Le crépuscule les entourait. La température ne changeait pas. Gordon Coom ne faisait pas un mouvement depuis des heures et sa bouche ne s'ouvrait pas, sinon pour reprendre du souffle, après un long moment de suffocation. Ses lèvres tremblaient légèrement quand il émettait de brèves répliques qu'il attribuait au gollywog ou au cadavre de l'oiseau, selon son humeur ou les nécessités du dialogue. Pour le reste, pour les phrases qu'il produisait en son nom propre, on ne sait trop s'il les prononçait réellement ou s'il se contentait de les recevoir en lui comme des pensées devenues paroles. Il demeurait figé au milieu de cette scène qui était celle de l'anéantissement de ses proches, de l'anéantissement du ghetto où il avait habité avant et après le camp, de l'anéantissement absolu de tout ce qui, jusque-là, l'avait retenu à la vie. Il avait l'impression que tout était fini et il n'attendait rien de particulier, sinon la suite. Il conservait les yeux mi-clos, les ténèbres diffuses n'agressaient pas sa rétine, permettaient à ses paupières de ne pas battre et l'incitaient à se croire figé déjà dans un espace intermédiaire, par exemple, entre somnolence et sommeil, ou entre sommeil et mort paradoxale. « Vas-y, toi, » répéta le rouge-gorge. « On est figé entre sommeil et mort, » fit remarquer le gollywog. « On n'a pas pu dégager les morts des décombres, au moins on pourrait les distraire avec des histoires. Distraire qui ? S'intéressa le rouge-gorge. Tu veux utiliser ton temps de parole pour distraire les morts ? Demanda Gordon Koum. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre ? Demanda le Gollywog. Ils laissèrent s'écouler, tous les trois, un moment prolongé de silence, puis le silence se prolongea encore. Personne n'avait envie de raconter quoi que ce fût. Quel genre d'histoire ? Demanda brusquement Gordon Koum. On ne savait pas très bien à qui il s'adressait. Leurs histoires à eux, dit le Gollywog. Nos histoires ? Vas-y, commence, toi, dit le rouge-gorge. Lui non plus, on ne voyait pas très bien à qui il s'adressait. À la mémoire de Leonard Baltimore. Après plusieurs mois de clandestinité, Leonard Baltimore eut un travail salarié. Pour $1 par semaine, il grimpait sur le toit des immeubles qu'on lui avait désignés et il empêchait les aigles d'y faire leur nid. Le climat avait changé, la faune avait changé, elle aussi, et s'était appauvrie en descendant des grands singes, enrichis en carnassiers de diverses espèces. Ruines et plâtras encombraient les rues de la capitale. Toutefois, la tour Kovarsky continuait à tenir debout. La plupart des étages étaient démolis, percés par des missiles et abandonnés, mais, par miracle, elle tenait debout encore au milieu des miettes. Tout était démoli à l'intérieur du bâtiment, les ascenseurs avaient brûlé et il fallait du temps, des cordes et de solides mollets pour en atteindre le sommet. C'est là qu'on envoyait Leonard Baltimore. On lui avait expliqué qu'ainsi il montrait sa volonté d'intégration sociale et que son travail lui donnerait des points pour l'obtention future de la citoyenneté. Leonard Baltimore ne croyait pas à ce qu'on lui disait, il comprenait mal la langue de ceux qui lui donnaient des ordres. Il n'avait aucune idée des objectifs de ses employeurs, mais il comptait refaire sa vie grâce à ce considérable afflux d'argent hebdomadaire. Les aigles étaient de grande taille et ils renâclaient à obéir aux gesticulations de Leonard Baltimore. Ils refusaient de reculer quand celui-ci s'approchait d'eux pour les menacer. Ils battaient des ailes en craillant. Ils entrouvraient leur bec énorme, leur bec conçu pour tenailler, pour dépecer et déchirer. Et à leur tour, ils menaçaient Leonard Baltimore. Les aigles puent, les aigles perdent leurs plumes sales quand ils agitent les ailes. Les aigles soulèvent sous la surface grise des toits la poussière grise et les résidus toxiques qu'a déposé la fumée des bombes. Les aigles se dirigent vers Leonard Baltimore en poussant des cris aigus que les poètes dans leurs poèmes appellent des glatissements et qu'ils associent à des idées de puissance et de grandeur, mais qui dans la réalité, entendues de près, ne sont que des clameurs discordantes et sinistre. Les aigles effraient Leonard Baltimore. Les aigles frappent Leonard Baltimore. Les aigles tentent de le frapper au visage, de lui crever les yeux ou de lui déchirer le cou juste sous le menton ou de lui déchirer les poignets juste à la naissance de la main. Les aigles sont féroces et tiennent à nidifier en haut des immeubles en dépit des instructions contraires que leur dictent les Untermenschen salariés par les humains, les Untermenschen comme Leonard Baltimore, et en dépit des mitraillages et des bombes qui fréquemment fracassent leurs œufs ou pulvérisent leurs oisillons. Leonard Baltimore emportait avec lui un manche à balai, avec quoi il parait les attaques les plus dangereuses des rapaces. Quand il redescendait après avoir fini par obtenir le départ des aigles, il était imprégné des odeurs fétides qu'émettent les aisselles et le poitrail des aigles. Il avait en tête la mauvaise haleine des aigles et la puanteur intense du croupion des aigles, et il était couvert d'une sueur aigre. Les employeurs de Leonel Baltimore lui avaient confié la maintenance de 8 grands immeubles. Parmi ceux-ci, la tour Kowarski était particulièrement pénible à escalader, mais même pour les constructions moins hautes, il lui fallait faire des prouesses d'acrobatie pour parvenir sur les toits que les raids successifs de l'aviation ennemie avaient réduits à des labyrinthes compressés où le béton ne se répartissait plus dans l'espace de façon logique. Parfois, tandis que Leonel Baltimore travaillait au sommet des bâtiments, l'aviation ennemie surgissait de derrière les nuages et tirait sur la ville au hasard ou sur des cibles qui avaient déjà été frappées de nombreuses fois et qui devaient représenter pour l'état-major ennemi des symboles importants, par exemple des maisons de retraite, d'anciens théâtres ou des centres d'accueil pour réfugiés. Leonel Baltimore n'aimait pas être exposé ainsi à la mitraille en même temps que les aigles. Il n'aimait pas partager avec les aigles, seul au milieu du ciel et de la poussière, le péril et la peur d'être cisaillé ou brûlé. Il n'aimait pas la stridence terrible des avions. Il n'aimait pas les rivières de napalm qui pleuvaient en gros paquets oranges vers l'abîme, beaucoup plus bas. Il n'aimait pas respirer l'air empoissé d'essence qui brusquement remplaçait l'air respirable. Il n'aimait pas avoir des aigles à côté de lui pour subir cette avalanche de mort. Toutefois, quand les raids avaient lieu, il cessait d'importuner les aigles et il s'accroupissait heureusement près du nid des aigles et, à défaut de pouvoir analyser la situation ou de pouvoir y mettre un terme, il se tournait vers le ciel et il se mettait à gémir des glatissements en même temps que les aigles. Leonel Baltimore fut mitraillé au sommet d'une tour du quai Sariachvan et, quand le raid eut pris fin, il se traîna jusqu'au bord de la plateforme et ouvrit les yeux. Le sang encroûtait ses paupières et il dut porter les mains à son visage pour l'essuyer, se dégager les narines et débarrasser ses cils de la matière vineuse qui les embrouillait. Le ciel était d'un gris bleu agréable, et maintenant que les appareils de l'ennemi étaient retournés à leur base ou s'acharnaient contre les civils dans la banlieue nord, on pouvait aisément en admirer la beauté paisible. De légers nuages étaient en formation au-dessus du fleuve, près d'un endroit où autrefois s'était dressée une bibliothèque. Leonel Baltimore suivit un moment leur évolution paresseuse. Il savait qu'il allait mourir, mais il ne pensait pas précisément à sa mort. Il laissait descendre en lui la tranquillité de l'univers. C'était comme si les blessures qu'il avait reçues se situaient dans des zones inconnues de son corps où la douleur n'aurait pas eu prise. Il sentait son organisme s'affaiblir, des élancements sous la gorge, dans les oreilles, le bruit de pompe du cœur avait perdu toute régularité, mais au fond, il avait atteint un niveau d'engourdissement qui semblait pouvoir durer encore jusqu'à la fin. Il s'efforçait de cligner des yeux le moins possible afin de ne rien manquer dans la lente danse des nuages. Les aigles qu'il avait chassés tout à l'heure ne reparaissaient pas et il le regretta. Il aurait voulu les avoir à son chevet et leur donner des instructions pour ses obsèques. Après un temps, il se remit à ramper sur la plateforme. Je pense qu'il gémissait, mais je n'en suis pas sûr. Le sol était jonché de débris, de granules métalliques et de spores vénéneuses lâchées par l'ennemi, et de temps en temps, Leonel Baltimore croisait ses propres traces, les traces de sa propre reptation sanglante. Il y avait aussi, évidemment, des crottes d'aigle et des plumes qui n'avaient pas été emportées par le souffle des bombes et des avions, ainsi que des pelotes alimentaires desséchées ou encore humides. Maintenant, Léonard Baltimore ne regardait plus le ciel. Il avait le visage tourné vers le sol et de temps en temps, ses joues et ses oreilles frottaient contre le ciment éclaté et les restes de plumes. Autrefois, il avait éprouvé une certaine sympathie pour les aigles, mais depuis que son travail avait consisté à les empêcher de nidifier sur les toits et que régulièrement il avait dû se confronter avec eux et détruire leurs nids, manipuler leurs restes et leurs pestilences, il avait eu tendance à les détester. Maintenant, il les appelait. Maintenant, il les aimait à nouveau. Sans réussir à bouger vraiment les lèvres, il émettait un discours qui s'adressait à eux. Il leur demandait pardon d'avoir, sur ordre de ses employeurs, dérangé leur existence sauvage, d'avoir jeté dans le vide les nids qu'ils avaient construits, d'avoir cassé leurs œufs. Il expliquait que seul l'appât du gain l'avait attiré sur ces hauteurs où nul ne se fût sinon aventuré. 1 dollar par semaine, répétait-il. C'est pas rien. Ils m'ont aveuglé avec ça. Quand le soir commença à bleuir les surfaces du monde, les aigles revinrent se poser en haut de l'immeuble. Léonard Baltimore avait l'impression qu'il pouvait toujours voir les nuages et parler. Il s'était remis sur le dos et ses yeux étaient ouverts, en effet. Les nuages avaient grossi, mais ils ne promettaient pas de pluie pour les heures à venir. Léonard Baltimore avait fouillé dans une poche de son pantalon pour essayer d'en désenfouir une pièce de monnaie qu'il voulait donner aux aigles, mais il n'avait trouvé aucun argent au milieu de sa chair dévastée et du tissu qui se mélangeait à elle. Il devina la présence des aigles à son chevet et cela le soulagea. Il leur exprima son désir d'être confié à eux pour des funérailles célestes. Il s'excusait de ne pas avoir les moyens de les rémunérer, mais il s'étonnait tout de même d'avoir perdu cette pièce de 1 dollar qui devait avoir roulé quelque part sur la plateforme. Il leur conseillait de bien chercher sous les débris et il leur donnait l'autorisation de fourrager eux-mêmes dans ses poches si nécessaire. Elle devait bien être dans un endroit ou dans un autre, cette pièce. Les aigles ne l'écoutaient pas. Ils piochaient dans la chair tiède de son ventre. Ils sautillaient près de ses jambes. Ils secouaient au-dessus de lui leurs ailes nauséabondes. Et de temps en temps, ils graillaient. Ils ouvraient leur bec en silence. Ils graillaient. Ils lançaient leurs cris grinçants, leurs clameurs discordantes, ils glatissaient. Ici, Maria Macoum, fière et intraitable créature des ghettos, combattante, merveilleuse, capable de placer une balle dans le front d'un ennemi à 200 mètres, a brûlé pendant des heures avec ses 3 enfants, Saria Koum, 14 ans, Ivo Koum, 14 ans également, et Gourbal Koum, leur aîné, 15 ans, allant de l'un à l'autre au milieu des flammes et de la rumeur atroce des écroulements, les consolant avec des contes et des chansons, les incitant à mépriser l'adversité, leur promettant un avenir radieux, essuyant avec sa salive et ses mains noires leur corps que la suie rendait illisible, leur donnant rendez-vous dans un autre monde. Leur donnant rendez-vous dans un autre monde, un jour, plus tard. ici et la brûler. Donc c'était un texte de Luz Bassmann, Les aigles plus. Je vais maintenant lire plusieurs pages du roman signé Volodine, écrivain, qui met en scène plusieurs écrivains, plusieurs figures d'écrivains qui ne correspondent pas véritablement à, pas du tout même à la figure d'écrivain médiatique, alcoolique génial, etc. On voit facilement romantique, on voit facilement lorsqu'on évoque l'écrivain typique. Alors, ce ne sont pas vraiment des écrivains typiques. Je vais lire une bonne partie d'un chapitre qui met en scène un écrivain qui s'appelle Nikita Gourilin. Mais au milieu de ces portraits d'écrivains, au centre du livre, j'ai placé des remerciements. Alors ces remerciements du type, qui sont des parodies loufoques de remerciements tels qu'on les trouve au début des thèses, ou à la fin des romans anglophones, ou... et qui dure une demi-page ou une page, là, au centre du livre écrivain, il y a 20 pages de remerciements, il y en a 49, évidemment, qui sont tous plus loufoques les uns que les autres, et qui mettent en scène de façon indirecte, d'une part, chaque remerciement raconte une histoire, mais met en scène là derrière un écrivain qui n'est jamais nommé, mais qui parle sans cesse de son œuvre immense et des nombreux livres qu'il a écrits. Alors, je ne vais pas lire du tout l'ensemble de ces remerciements, je vais en lire deux ou trois. Ensuite, je lirai... l'histoire de Nikita Gourilin. Et puis, comme c'est assez sinistre, je reprendrai la parole pour deux ou trois remerciements pour que la salle ne se quitte pas dans le silence. Remerciements. Parmi les personnes à qui je suis formidablement redevable de m'avoir soutenu dans les moments difficiles, une place toute particulière doit être réservée à Tatiana Vidal, à son mari Olaf et même à leur bébé Carmelita pour les encouragements qu'ils m'ont prodigués alors que, songeant à me défenestrer, j'avais déjà enjambé le rebord du balcon de leur 22e étage. Sans leurs paroles réconfortantes, intelligente et appropriée, et sans les sanglots de Carmélite, je crois bien que je n'aurais jamais terminé mon roman Macbeth au paradis. Merci à Roger Chabert pour m'avoir expliqué les règles du sudoku et du jeu de Go que mes personnages Timothy Kerrigan et Franco Salieri ont mis à profit dans ma nouvelle Voix des crânes. Ces remerciements seraient particulièrement incomplets si je n'y associais Myriam Wundersee, dont la grande érudition politique et les contacts avec le monde de la subversion dans le nord de l'Europe m'ont permis d'évoquer sans trop d'erreur les réseaux Cro-Blanc ainsi que le réseau Valpolicella et les militants de la gauche radicale islandaise. Si jamais des incongruités se sont glissées dans mes descriptions, la faute ne peut pas lui être imputée et seule mon imprudence d'auteur en est responsable. aux renseignements précieux que Myriam Wunderzee m'a fournis sans la moindre réticence, j'aimerais ici ajouter, comme méritant également une reconnaissance vive et éternelle, la grâce de Myriam Wunderzee, son rire, sa disponibilité de tous les instants, ainsi que son insurpassable Osobuko Allaroma. Également présent parmi les personnes qui m'ont aidé à remonter la pente alors que je ne réussissais pas à terminer Enfer au paradis, je ne saurais jamais assez exprimer ma reconnaissance au frère Bob, dont la musique combinant les racines slaves et les chants de Louisiane m'a souvent apaisé, en alternance évidemment avec les 9 symphonies de Gustav Mahler, musicien qu'ici posthumement je remercie de tout mon cœur et de toutes mes oreilles. Ces remerciements perdraient une grande part de leur valeur s'ils négligeaient Rita Botticelli, qui, au cours de la soirée d'adieu, a pris l'initiative de me conduire jusqu'à un boudoir désert et non éclairé, afin de faire avec moi ces choses que je décris dans le 9e chapitre de « Fumer dans le crépuscule ». Puis, alors que son mari et ses 3 gardes du corps cherchaient à savoir où elle avait disparu, de se cacher avec moi dans une penderie, où nous avons continué à faire ces choses. Nikita Kourine n'était pas appelé à être écrivain. Il n'avait pas grande aptitude à l'être, et ce statut de marginal, de créature inférieure et exclue, n'avait aucune raison de le tenter, mais il avait fini par le devenir. Il l'était tant bien que mal devenu à sa naissance dans une rue non asphaltée de Yemerovo, au sud de Moscou, le 27 juin 1938. Sa grand-mère prétendait qu'il était né un dimanche. C'était un dimanche, un beau dimanche, disait-elle. C'était, oui, pourtant, oui, un beau dimanche. Les cloches sonnaient, ta mère criait, jambes écartées au-dessus de son sang. Elle se vidait, elle était en train de mourir, les cloches sonnaient à toute volée. C'était une journée chaude de juin. Par la fenêtre, on voyait les bouleaux scintiller comme si chacune de leurs feuilles avait été remplacée par un petit miroir. Pour elle, comme pour nous tous, ça aurait dû être un dimanche superbe, mais elle était en train de mourir. La sage-femme avait perdu son calme, elle rassurait ta mère, malgré le sang, mais de plus en plus souvent, sa voix dérapait et elle criait, elle aussi. Tu n'étais pas encore tout à fait sortie, le cordon t'étranglait, les cloches sonnaient à toute volée. J'ai ouvert la fenêtre pour essayer d'évacuer les odeurs de boucherie et de mort qui s'enfuyaient du corps de ta mère, car ne crois pas, Nikita, que les odeurs de l'accouchement soient agréables, ou même neutres, non. Au contraire, elles sont insupportables. Le tintement des cloches s'est engouffré encore plus fortement dans la pièce. À mon tour, je me suis mise à hurler pour couvrir les bruits, et presque aussitôt, j'ai refermé la fenêtre, et quand je me suis retournée, tu étais finalement sortie. Le cordon avait cessé de t'étouffer, et ta mère était morte. Kourine avait entendu ce récit de nombreuses fois, avec des variantes, car sa grand-mère avait tendance à l'exagération épique et au bavardage, et maintenant, quand il se le récitait intérieurement, il ne ressentait plus l'émotion et la gêne qu'il avait ressentie pendant toute son enfance. Le traumatisme avait été terrible quand, tout petit encore, il avait appris que sa venue au monde avait accompagné et peut-être provoqué la mort de sa mère. 45 ans plus tard, alors qu'il estimait avoir déjà atteint la limite au-delà de quoi il n'y a rien, sinon une dégradation inéluctable sur le chemin menant au cimetière, son sentiment de culpabilité demeurait. Il avait réussi à l'enfouir sous d'autres malaises et d'autres mauvais souvenirs, mais en profondeur, la plaie n'était pas cicatrisable. Peu à peu, toutefois, l'histoire que relatait sa grand-mère avait dérivé vers quelque chose de confusément littéraire, composée d'une succession d'images fortes mais artificielles, comme s'il s'agissait d'une séquence cinématographique dont le contenu était depuis longtemps épuisé, trop rabâché pour réveiller les vieilles douleurs. Sa grand-mère n'était plus là pour habilement remuer ce qui l'effrayait ou lui faisait mal. Dans ce film qu'il voyait et revoyait, la sauvagerie ruisselante, les hurlements, l'hystérie bruyante, le vacarme des cloches avaient une coloration si exagérée que le tragique n'était plus crédible. Kourilin se sentait moins concentré, se sentait moins concerné, et il se permettait même, depuis quelques années, de regarder cela en haussant les épaules. Souvent, les yeux fermés, il réécoutait la voix chaude, la voix d'actrice de sa grand-mère, et il s'attendrissait en pensant à elle. Il admirait son art de la narration, et il se rappelait la première fois où il avait mis en doute l'authenticité des détails et des rebondissements qui rendaient la scène si vivante et si impressionnante. Il avait tardé à admettre que sa grand-mère s'était livrée à des inventions narratives, mais un jour, alors qu'il était déjà un adolescent honteux et triste, consterné en permanence de devoir son existence à un crime, il avait eu une révélation. Les cloches. Aucune cloche ne pouvait sonner à Yemerovo le 27 juin 1938, que ce fût un dimanche ou un autre jour. À l'époque, les églises orthodoxes étaient en délicatesse avec le régime, c'est le moins qu'on puisse dire. La lutte anti-religieuse n'était pas aussi acharnée et enthousiaste que dans les années 20, mais elle restait d'actualité et les popes évitaient d'officier au grand jour. On pouvait encore rencontrer des prêtres au regard fuyant sur le qui-vive et terrorisé par leur quotidien de semi-clandestinité et des services avaient lieu, mais les clochers se taisaient. C'est impossible, avait-il dit à sa grand-mère. Les cloches se taisaient à cette époque. Quoi, impossible ? S'était fâchée sa grand-mère. Il y avait un carillon à moins de 100 mètres de la maison, je te jure, je me rappelle ça comme si c'était hier. Le ciel était limpide, c'était un dimanche magnifique, un dimanche de juin, magnifique. J'ai ouvert les fenêtres, parce qu'on étouffait dans la chambre. Ta mère n'avait pas cessé de gémir depuis le milieu de la nuit, l'aube avait été pénible. La chambre sentait mauvais, je ne pouvais plus respirer ces émanations de sueur, d'organes dilatés et de linge sale. La sage-femme avait les cheveux qui empestaient son tablier de vétérinaire, était impeccable, mais sa robe avait dû lui faire toute la semaine. Et elle s'était habillée en hâte pour venir sans se changer avec ce qui était tombé sous la main, avec ses vêtements déjà fatigués. Tu sais comme je suis sensible aux odeurs. Ta mère l'était beaucoup moins. Mais tu as hérité de ça, toi aussi, Nikita. Tu supportes mal les mauvaises odeurs. Nous sommes pareils, nous ne supportons cela ni l'un ni l'autre. Et donc, je suis allé vers les fenêtres et je les ai ouvertes. Mais la sage-femme me l'a interdit. Elle appartenait à cette école d'obstétrique qui veut que la parturition se déroule dans un milieu quasiment hermétique et sans témoin. Elle aurait d'ailleurs souhaité que je m'en aille, mais j'ai refusé. J'ai fermement refusé. D'abord, parce que Gaïa était ma fille, et aussi parce que cette sage-femme m'indisposait. Une incapable, qui avait son diplôme, mais que je soupçonnais d'être mauvaise, d'être incompétente, et d'avoir ses entrées dans les bureaux où on dénonçait ses voisins et tout le monde. J'ai fermé la croisée, et à ce moment, les cloches se sont mises à sonner, une première fois, mais il était tôt encore. J'ai aucune idée de l'heure. La chambre a été de nouveau, ensuite, longtemps, comme étanche, séparée de tout, puis tu as commencé à sortir. Le surgissement de ton crâne pelé, violacé, a été si affreux que je n'ai pas pu en soutenir la vue plus de quelques secondes. Et ensuite, l'hémorragie a été si violente que j'ai eu envie de vomir. Tandis que la sage-femme se démenait, je suis allé m'appuyer contre la fenêtre. Ta mère refusait qu'on lui prenne la main, elle refusait toute assistance, elle refusait ma présence, elle refusait tout. Elle ne faisait que se lamenter comme une bête qu'on a menée à l'abattoir, qu'on a commencé à égorger avec maladresse et qu'on a ratée. J'avais plus grand mal à voir en elle ma fille plutôt qu'un animal obscène en train d'agoniser de façon répugnante. Elle n'avait plus de langage, elle ne s'adressait plus à quiconque, elle poussait des hurlements lamentables qui ne la différenciaient pas d'une brebis ou d'une vache sous le couteau de boucher. Pardonne-moi, Nikita, de te dire les choses de façon à ce point brutale, mais c'est vrai, je n'arrivais plus à la voir comme quelqu'un d'humain, comme quelqu'un avec qui j'avais un lien de sang, comme quelqu'un qui aurait pu, à un moment plus favorable, se tourner vers moi et montrer qu'elle était ma fille. Je ne ressentais rien de particulier à son égard, sinon de l'exaspération et même une vague aversion. Je n'ai jamais eu la fibre maternelle, à avoir une fille ne m'avait jamais plu, me sentir génétiquement responsable d'une fille me révoltait. Tu vois, Nikita, je te cache rien. J'ai jamais désiré passer pour quelqu'un d'exemplaire, mais bon, je sais que c'était dimanche à cause des cloches. Un autre jour, il n'y aurait eu aucun bruit dehors, ou simplement le bruit d'un camion passant sur le chemin, ou quelques échos de conversation. Pas grand bruit, de toute façon, c'était un village, et même un village plutôt désert. Et là, il y avait les cloches. Je n'ai pas pu inventer ça, évidemment. Je t'assure, Nikita, je n'ai pas pu inventer ça. Je me rappelle ce matin, comme si c'était hier, hein, c'était le 27 juin 1938, au sud de Moscou, et je t'assure que c'était un dimanche. Les cloches sonnaient, le ciel brillait, c'était un beau dimanche. C'était le jour de ta naissance, un beau dimanche. Ça aurait pu bien se passer quand on y pense. La voix de la grand-mère de Nikita Kouridine était veloutée et grave. Il avait passé son enfance à l'écouter, à lui obéir et à croire ce qu'elle disait. Ils avaient vécu ensemble, sa grand-mère et lui. Ils avaient habité Yemerovo. Puis, quand les Allemands s'étaient rapprochés de Moscou, ils avaient émigré vers des agglomérations perdues de l'Oural. Kulgurkin, Baïkaziorova, Askariova. De temps en temps, disons une ou deux fois par an, elle lui racontait sa naissance et reprenait tout depuis le début, depuis ce départ atroce. C'est pour le cas où tu n'es pas compris ce que vaut une vie humaine, disait-elle. Les cloches sonnaient à toute volée, insistait-elle. Quelle cloche ? Demandait Nikita Kouridine. Il avait 8 ans, il était encore trop petit pour mettre son récit en cause, mais confusément déjà, ce détail le chiffonnait. Il se frottait le nez avec le revers d'une moufle afin que le sang circule, afin que l'extrémité attaquée par le gel ne perde pas contact avec la vie, ne tombe pas. Les cloches, expliquait la grand-mère du petit garçon, les cloches des contre-révolutionnaires, les cloches des popes, les cloches des réactionnaires orthodoxes, les cloches des anti-soviétiques, les cloches des trotskistes, les cloches des espions de l'Autriche, de l'Allemagne, du Japon, des Anglais. Elles sonnaient à toute volée. On n'entendait qu'elles. Même ta mère devait brailler plus fort pour se faire entendre. La sage-femme lui demandait de mettre un bémol à ses plaintes. Elle essayait de la convaincre que toutes les femmes en étaient passées par là, avant elle. Ensuite, l'hémorragie a commencé, l'hémorragie a été torrentielle et la sage-femme a cessé de faire des reproches à ta mère. Les cloches n'ont joué aucun rôle dans l'histoire. Les cloches, insistait le petit garçon. Jamais de ma vie je n'ai entendu de carillon, jamais je n'ai entendu un dimanche avec cloche. C'est normal, commentait la grand-mère de Nikita Kouridine. Tu vis à une autre époque. En 38, ça sonnait encore. Je me rappelle tout ça comme si c'était hier, ça sonnaillait à toute volée. C'est au sud de Moscou, à côté de Butovo, à Yemerovo, rue Tchernogradskaya. Peut-être qu'il y avait une exception dans cet endroit, je ne peux pas te dire, mais ça sonnaillait, il y avait un carillon pas loin de la maison et ça sonnait à toute volée, ça rendait l'accouchement encore plus monstrueux. Les premiers sons que tu as entendus, c'était les gémissements de ta mère et l'affolement de la sage-femme qui faisait semblant de ne pas être affolée, et les cloches. Tu ne te rappelles pas ça, évidemment, mon pauvre petit, mais c'était ça, c'était comme ça. Courilune n'était pas visitée par la nécessité de mettre par écrit des fables ou de s'épancher sur le monde dans lequel il avait atterri pour vivre, ni par le besoin de confier au papier ses humeurs et ses déceptions, ni par le souci de faire la leçon aux autres. Il n'avait rien d'un écrivain. Et d'ailleurs, le niveau d'éducation qu'il avait atteint aux alentours de 20 ans ne l'aurait guère aidé s'il avait voulu se livrer aux activités fallacieuses et arrivistes que l'on regroupe habituellement sous le terme pompeux de littérature. Il n'avait aucun diplôme. Il savait poser des prises électriques, réparer les lave-linges et les moteurs de tracteurs, mais il préférait ne pas se spécialiser et il allait d'un emploi précaire à un autre, tantôt gardien, tantôt terrassier, tantôt balayeur ou plongeur dans des cantines d'usines ou encore factotum dans des administrations obscures. Sa grand-mère à présent était morte, il n'avait aucune famille, et sur le plan sentimental et sexuel, rien de bien notable ne lui était jamais arrivé, les filles l'ayant toujours considéré comme un pauvre type. Il dormait sans pouvoir se rappeler ses rêves, il ne lisait pas de livres, ses connaissances reçues à l'école s'effilochaient. La pauvreté intellectuelle et la monotonie de son quotidien creusaient en lui un vide qu'il ne s'empressait pas de combler et dont il n'avait pas honte, car il était entouré de gens qui, comme lui, savaient que leur existence ne valait rien, ne conduisait à rien, sinon à la tombe, et qui, une fois ce constat établi, s'en fichaient. Un soir, qu'il était tombé sur un vieux calendrier perpétuel, il chercha, comme tout le monde le fait toujours, à vérifier quel était le jour de la semaine correspondant à sa date de naissance. C'était un dimanche qui aurait pu être magnifique, disait sa grand-mère. Il mit moins d'une minute à découvrir que le 27 juin 1938 avait été un lundi. Cette découverte le pétrifia. Il ne parvenait pas à concevoir que sur ce détail aussi, sa grand-mère avait menti. Depuis longtemps, il avait remis en question le vacarme des cloches et même la quantité de sang répandu par sa mère. Mais il n'avait jamais songé à contester cette histoire de dimanche. Une fois émergé de l'état de désarroi où cette nouvelle révélation l'avait plongé, il rappela à sa mémoire le récit de sa grand-mère. Yemerovo, Butovo, la forêt de Drojino, une atmosphère de village russe, des peupliers, des bouleaux, des sapins, des cloches qui se déchaînaient, la beauté d'une journée de juin, les fenêtres fermées, ouvertes, refermées avec bruit, le calme dehors et la tragédie à l'intérieur, l'odeur du sang, un bébé qui se présentait mal, un bébé qui glissait d'un monde à l'autre au milieu d'un flot sinistre et qui se débattait, violacé et tueur, qui tenait à survivre coûte que coûte, qui pour premier chaînon dans la chaîne de son existence choisissait de laisser derrière lui une mare de sang et un cadavre. Tout le monde était couvert de sueur, racontait sa grand-mère. Les accouchements se ressemblent, il est de bon ton de prétendre qu'ils s'accompagnent d'une idée de bonheur et que la douleur des contractions est plus que largement compensée par la joie tranquille de la délivrance et par l'apparition du nouveau-né. Il est de bon ton de le prétendre, mais c'est souvent très faux. Les souffrances sont indescriptibles, l'angoisse qui précède l'accouchement est accablante, le travail n'est qu'une succession de peurs et de crampes. Je vais te dire, Nikita, c'est aussi un moment où on est effaré d'être autant femelle, autant animal. On ressent le poids de toute l'animalité depuis des dizaines de millions d'années, et c'est un poids trop lourd, un poids qui écrase. De tout le processus, la longue expulsion du bébé hors des entrailles est le pire. D'autres femmes s'agitent autour de toi, elles te touchent, elles t'écartèlent, elles te parlent, et tu devines, au fond de leur voix, qu'elles sont fondamentalement dégoûtées par ton corps, par le bas de ton corps, par ta manière de vivre, la mise à bas, comme si c'était une maladie, une crise aiguë, dans une maladie honteuse. Elles te rassurent, elles prononcent des sottises prétendument apaisantes, mais au fond de leur voix, tu discernes un jugement négatif sur toi. Elles pensent que tu pourrais être plus courageuse, que tu réagis mal à la souffrance, que tu ne fais pas assez d'efforts, que tu joues trop médiocrement ton rôle de mère heureuse. Je suppose que Gag a été hanté par tout ça et que ses sentiments de honte et de chagrin se sont mélangés à ses terribles douleurs, et peut-être qu'à cause de ça, elle ne s'est pas sentie mourir. Je ne sais pas. Je l'ai souhaité intensément sur le moment et je souhaite encore de toutes mes forces que ça ait été le cas. Je n'attouchais pas, je ne l'écartelais pas comme le faisait la sage-femme. J'étais là dans la chambre, plus comme un témoin inutile que comme quelqu'un pouvant fournir de l'assistance. Je jetais de temps en temps un coup d'œil sur ce qui se passait et je voyais le sang qui débordait, l'air de la chambre était irrespirable, tout le monde était couvert de sueur, ta mère ruisselait, la sueur se perdait au milieu des liquides de toutes sortes qui la vidaient. La sage-femme se penchait, manifestement confrontée à des complications qu'elle ne savait pas traiter, et son odeur de transpiration malpropre jaillissait autour d'elle, m'obligeant à rester près de la fenêtre plutôt que près du lit. J'étais moi-même très moite, je n'en pouvais plus de chaleur et d'énervement, je n'en pouvais plus d'impuissance, de colère contre le destin. Je n'en pouvais plus d'être en face de la naissance et en face de la mort. Je n'arrivais plus à respirer. Quand j'ouvrais la fenêtre, la sage-femme m'ordonnait de la refermer. Les cloches sonnaient d'une façon obsédante, ça ne cessait pas, quand j'y pense, de toutes ces heures horribles. Le carillon n'a pas été le plus insupportable. Mais oui, c'était insupportable, ça oui, insupportable. L'idée d'avoir été trompée pendant 45 ans sur des éléments aussi décisifs de son existence raviva les sentiments de doute, de dégoût et de culpabilité qu'il avait cru recouverts et même atténués par le temps, mais en parallèle lui donna l'impression qu'il pouvait à présent lui-même s'emparer de ce récit, qu'il pouvait s'y introduire sans plus compter sur une voie intermédiaire. Il venait de comprendre que sa naissance pouvait aussi être rapportée avec des mots et même des détails qui lui appartenaient, que sa naissance était une fiction qui allait désormais dépendre entièrement de lui. Sa grand-mère, sa mère, la sage-femme, les cloches, les odeurs, la fenêtre, le sang, le nouveau-né qui se présentait mal, tout pouvait être combiné autrement, sous la forme d'un récit différent qui lui obéirait et qui peut-être enfin l'apaiserait. Voilà comment, en 1983, Nikita Kourilin est touché par l'exigence de l'écriture. Il ne songe pas à un livre, il ne songe à rien de précis, il sait seulement qu'il doit reprendre sa naissance à zéro et que cela signifie mettre sur le papier le déroulement exact, point après point, de l'événement qui lui tient à cœur. Comme il n'a pas le don de l'invention, il se met à la recherche d'autres éléments que ceux que lui a fournis le calendrier perpétuel. Son enquête ne repose sur rien. Il l'amène sans méthode en cherchant à droite, à gauche et en comptant sur le hasard. Plusieurs fois, au cours de ces mois difficiles, il va traîner sur les lieux qu'évoquait sa grand-mère. Yemerovo, les bois de Drojino, Butovo, Bobrovo. Il se renseigne laborieusement sur ce qui s'est passé le 27 juin 1938. Il ne trouve rien de spécial. Et soudain, il apprend que l'endroit avait été choisi par le NKVD pour fusiller 20 000 personnes pendant les purges. Ce sont des mois difficiles parce qu'il est déprimé de nouveau sans emploi, très seul, et parce que le temps est gris et sinistre. Il déambule avec mauvaise conscience dans les allées ont été maintenant tracés entre les sapins et les bouleaux de Drojino. Il respire le parfum des écorces, des futaies humides. Il marche sans hâte et sans plaisir dans les feuilles mortes, sur les aiguilles pourries, dans la boue. Son village natal a été défiguré par la mise en place d'une zone résidentielle. Personne n'a entendu parler de la rue Tchernogradske. Personne parmi les vieux ne se rappelle sa grand-mère. Sa maison natale n'existe plus. Personne parmi les vieux ne reconnaît avoir jamais eu vent de l'existence d'un centre d'exécution du NKVD. Quant aux jeunes, ils se moquent ouvertement de lui et lui tournent le dos ou lui donnent des indications fantaisistes. Rien n'est là pour favoriser la recomposition de ses souvenirs. Maintenant, il erre à proximité du polygone de Butovo, dont il ne reste pratiquement rien. Sous ses pieds, il y a des fosses communes et des milliers de morts. Sous les champignons, sous la lumière médiocre de l'automne, sous la pluie, il y a des morts, il y a des milliers de tués. Pendant un moment, il essaie d'écrire. Quelque chose le pousse à le faire. Mais il ne réussit pas à organiser son discours et bien qu'il s'acharne, il obtient une suite de phrases déséquilibrées, des magmas de mots qui ne rendent pas compte de sa naissance, ni de la mort de sa mère, ni du massacre qui se déroulait de l'autre côté des bois de Drajin. Toutes ces tentatives de rédaction avortent après une demi-page. Ce premier épisode affreux de son existence ne lui a jamais apporté que des tourments et de la honte, mais à cela, aujourd'hui, s'ajoute le sentiment de son incompétence en tant qu'auteur. Il perd patience car il s'est laissé envahir par l'idée qu'il a un devoir littéraire à accomplir. Son histoire a un titre dont il est assez fier. Histoire d'un dimanche qui était un lundi. Mais la suite manque. Il travaille là-dessus pendant des semaines. Il accumule des ébauches qu'il abandonne après les avoir entièrement raturées. Il est malheureux. Il vient d'emménager dans un sous-sol à l'entrée d'une fabrique de meubles qu'il a embauchée et dont il assure le gardiennage de la tombée de la nuit au petit matin. Il n'a pas d'amis et de plus, son entreprise littéraire l'a coupé du monde extérieur. Toutefois, les deux concierges de la fabrique qui surveillent les entrées et les sorties durant la journée, le traitent en camarade. L'un d'eux, Daz Dogivlo, a eu autrefois des ennuis avec la police, dont il se refuse à parler. L'autre, Utchour Tenderekov, a des antécédents psychiatriques. C'est avec ces deux-là que Kourilin a des conversations sur son projet poétique. Il leur fait part surtout de son incapacité à raconter sur le papier ce qu'il arrive tant bien que mal à dire. Il leur résume aussi l'affaire. Il parle de Butovo, du dimanche, du lundi, de sa grand-mère, de l'horreur animale de l'accouchement. Il a du mal à reconnaître à voix haute que sa mère est morte à la minute où il est né, alors il ne le dit pas. Mais il donne le détail des cloches. Il répète la date. Avec les concierges, il partage du vin doux, de la bière, de la vodka. L'homme qui a eu des ennuis avec la police spécule sur les archives du NKVD, sur les listes de noms qui figurent dans des dossiers non détruits, sur des listes énumérant les fusillés de 1937 et de 1938, sur les feuilles où les hommes de Yezhov ont inscrit les noms des condamnés du polygone de Butovo, sur la feuille datée du 27 juin. L'homme qui a fait des séjours en asile de fous, Utchour Tenderekov, prétend qu'il en possède déjà une. Il l'a vue en rêve, il sait où elle est, il attend une occasion favorable pour la revoir, s'en emparer et l'a rapporté à Nikita Kourilin. Ils ont beaucoup bu. Dehors, il fait noir. La pluie et le vent cognent contre les vitres. Utchour Tenderekov monte sur une chaise et agite les bras pour que le rêve revienne en lui dès à présent. Il est déchaîné. C'est un ancien malade mental et on a l'impression qu'il est en train de faire une rechute. Il gesticule. Il explique qu'il ordonne à des forces de s'introduire en lui, qu'il ordonne à sa mémoire de tout reconstituer, qu'il ordonne aux fusillés de crier en lui leur nom. Et de temps en temps, il vacille, et il sanglote. S'il n'était pas éclairé aussi crûment par l'ampoule nue, on pourrait penser qu'il est possédé, qu'il est retourné dans son Altai natal et qu'il se livre à une séance d'évocation chamanique. Puis, il donne des noms, il déclame, l'une après l'autre, les fiches des hommes que le NKVD a assassinés. Il les lit à haute voix, comme s'il les avait sous les yeux. Abattu par l'alcool, tout autant que par l'évocation lugubre des morts, Daz, Dogivlo et Nikita Kourilin écoutent ce qui ressemble effectivement à une liste, au début d'une liste interminable. Abrashin Stepan Fyodorovitch, né en 1884, hameau de Obiltsevo, district d'Etchinsky, région de Moscou, russe, éducation élémentaire, sans parti, usine de béton armé chargée du chauffage, adresse, Moscou, 5e avenue Donskoy, foyer, numéro 25. Arrêté le 12 avril 1938, jugé le 3 juin 1938 par une troïka de l'UNKVD de Moscou. Inculpation, agitation contre-révolutionnaire. Fusillé le 27 juin 1938, lieu d'inhumation, Boutovo. Alexeyev Artyom Mikhailovitch, né en 1894, village de Dermanovka, district Bazarsky, région de Kiev. Russe, éducation élémentaire, sans parti, ouvrier agricole possédant un cheval, habitant au village de Kotiakovo, district Leninitsky, région de Moscou. Arrêté le 4 avril 1938, jugé le 3 juin par une troïka de l'UNKVD de Moscou. Motif de l'inculpation, agitation contre-révolutionnaire, déclaration calomnieuse sur la politique du parti et le pouvoir soviétique. Fusillé le 27 juin 1938, lieu d'inhumation, Boutovo. Bashkatov Vassili Vassilievitch, né en 1890, au village de Dektianskoye, district Kozlovski, province de Tambov, russe, éducation élémentaire, sans parti, inscrit à l'artel Oudarnik, charretier indépendant, habitant Moscou, cité Vladimirski, baraquement numéro 1, arrêté le 26 mars 1938. Jugé le 3 juin 1938 par une troïka de l'UNKVD de région pour agitation contre-révolutionnaire parmi les ouvriers de son foyer et humeur terroriste à l'égard du dirigeant du parti. Fusillé le 27 juin 1938, enterré à Boutovo. Gaïdar Afanassi Fyodorovitch, né en 1872, né au village de Grinki, district Semenovski, région de Kharkov, ukrainien, éducation élémentaire, sans parti, travaillant à la construction du métro comme ouvrier à la fosse numéro 57, adresse Moscou, rempart Lefortovski, numéro 12. Foyer des travailleurs du Metonostroy, baraquement numéro 3. Arrestation, le 21 janvier 1938. Jugé, le 3 juin 1938, par une troïka dépendant de l'UNKVD régional, sur l'accusation d'agitation antisoviétique. Agitation antisoviétique et intention terroriste. Fusillé, le 27 juin 1938. Inhumé à Boutovo. L'inspiration de Outchour Tenderekov s'éteint au bout d'un quart d'heure. Il réussit à descendre de sa chaise sans tomber, puis il s'écroule aux pieds des deux autres. On ne sait s'il a été foudroyé par la vodka ou parce que les forces qu'il a invoquées l'ont brusquement quitté. Il respire et il râle d'une façon inquiétante, puis il se met à ronfler. « Ça va aller », grommelle vaguement Daz Dogivlo. « Il va récupérer et ça va aller ». Lui-même, Daz Dogivlo, ne résiste plus au besoin de dormir. Kourilin les abandonne dans la petite pièce éclairée, puante, sordide, et il sort prendre son service de surveillance. Il va vérifier les fermetures des portails, la fermeture des entrepôts, des ateliers. Il fait le tour de la cour d'entrée. Il parcourt les galeries pleines d'échos. La nuit est dense, la pluie bruyante. Les ateliers émettent des parfums puissants de bois, d'huile et de vernis. Kourilin s'appuie contre les portes. Il zigzague le long de son chemin de ronde. Il parle tout seul. Il marmonne des noms qui reprennent ceux que Outchour Tenderekov a claironnés une heure plus tôt. Il est extrêmement troublé, extrêmement triste, et il est ivre. Il s'adosse à une grille, le visage tourné vers la pluie, la veste ouverte face au vent et à la noirceur nocturne. Il dit de nouveau des noms, des éléments biographiques minimalistes, des dates d'arrestation. Sa voix est une plainte avinée, c'est aussi un reproche lancé vers la nuit. Elle ne porte pas loin, 4 ou 5 mètres tout au plus. Le vent et la fatigue l'annulent immédiatement. Mais elle s'adresse à un public invisible, aux nuages invisibles, au ruissellement obscur né dans le ciel obscur. Elle s'adresse aux morts. Quand vient le matin, Kourilin se réveille. Dans l'inconscience, au milieu de la nuit, il s'est traîné sous un abri. Il a les membres et le ventre glacés. Ses vêtements sont encore trempés. Les mains crispées sur un morceau de bois, une tombée de bois de sapin arrondie en forme de quille. Il reprend contact avec le monde. Il frissonne et il se dirige vers son sous-sol. La première équipe est déjà à pied d'œuvre. On entend dans les ateliers la scie se mettre en marche. Kourilin descend l'escalier et pousse la porte qui mène à son minuscule appartement. La lampe est toujours allumée, mais il n'y a plus personne. Ses compagnons de beuverie ont dû, tant bien que mal, regagner leur poste de travail et décadenasser les grilles pour les livraisons, ouvrir le portail principal. Dans la pièce où vit Kourilin, les odeurs d'ivrogne sont fortes. Il fait basculer le soupirail pour que l'air se renouvelle, il remet de l'ordre, aligne les bouteilles dans un coin, lave le sol, il se nettoie, se rase, il change de sous-vêtements, puis il s'allonge dans son lit froissé qui sent la pisse, puis il se relève, il sait qu'il ne pourra pas s'endormir, et l'idée lui vient même qu'il ne pourra plus jamais bien dormir, du moins jusqu'à sa mort, jusqu'à ce qu'il ait rejoint ceux qui ont été fusillés le jour de sa naissance, à la minute de sa naissance, au moment précis où il se débattait pour désobéir à la mort de sa mère et pour échapper au cordon qui l'étranglait, pour échapper coûte que coûte à l'apnée initiale et terminale. Il prend un crayon et il tente une nouvelle fois de déverser sur le papier ce qui lui remplit la tête, mais après 2 lignes analphabètes, il s'interrompt. Sur la table, la quille ressemble à un totem illisible. Ce n'est ni une quille, ni un élément de meuble identifiable, ni une représentation grossière de divinité ou d'humain. C'est seulement un bout de bois abandonné par les menuisiers après 1 minute décevante de travail autour. C'est seulement un bout de bois, mais Kourilin écarte son attirail inutile d'écrivain et il lui parle. Abrashin, Stepan Fyodorovitch, tu as eu peur. Tu as eu peur après ton arrestation. Pendant qu'il t'interrogeait, pendant qu'il cherchait à te faire dire des imbécilités contre-révolutionnaires, pendant toutes ces semaines interminables d'avril, de mai et de juin, tu n'as rien compris. Tu as été traversé par l'idée que tout finirait par s'arranger. Tu savais bien au fond de toi qu'on ne pouvait pas t'emprisonner pour rien, qu'on n'allait pas t'envoyer en camp pour des motifs fabriqués de toutes pièces. Il t'avait cassé la figure, tu avais la bouche en sang, tu n'arrivais pas à dormir, tu avais peur. Moi aussi, à la même époque, je n'en menais pas large. Tu avais peur, mais tu gardais un peu d'espoir. Tu ne parlais pas aux autres détenus. Abrashin, moi aussi, à la même époque, j'avais peur. Il n'y avait personne pour m'écouter, et au fond de moi, je savais bien que je n'allais pas sortir indemne de là où j'étais, que j'allais en sortir dans de mauvaises conditions. Abrashin, maintenant, je te parle. Nous sommes ensemble. Essaie de ne plus avoir peur. Nous avions un même espoir tous les deux, mais ça a mal tourné. Essayons ensemble de parler de tout ça. Je t'écoute. Avec ce discours au bout de bois, Kourilin, ce matin-là, entame la scansion de son œuvre unique mais considérable, qui fera de lui un des écrivains les plus méconnus de son siècle et, si l'on se réfère à une périodisation littéraire précise, sans doute l'écrivain le plus ignoré de la perestroïka, celui qui, à l'évidence, aura laissé le moins de traces dans le monde de la vaine parole. Merci à mon éditeur de l'époque, Malcolm Okada, qui m'a suggéré d'intituler mon premier roman « Aux viandes réunies », alors que j'avais prévu pour titre « Essai sur la dualité ».